buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous et à toutes. En ce 20 juin, la journée mondiale des réfugiés prend un tour particulier en Europe. Il y a quelques jours à peine, Malte et l'Italie refusaient d'accueillir sur leur sol 630 réfugiés recueillis en Méditerranée par l'Aquarius. Après deux jours d'immobilisation dans les eaux internationales, le bateau de SOS Méditerranée accostait à Valence, l'Espagne ayant été le seul pays à proposer de le recevoir. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Mathilde Ovinin, l'une des porte-parole de SOS Méditerranée, de retour de Valence. Alors, issue heureuse, si l'on veut, mais qui, en tout cas, n'est pas satisfaisante, selon vous ?
Débarquer en Espagne des naufragés secourus au large de la Libye, ça ne peut pas être une solution à long terme. Les conventions internationales sur le sauvetage en mer sont très claires. Elles prévoient que les naufragés doivent être débarqués dans le port le plus sûr et le plus proche. Or, pour atteindre Valence, il a fallu plus de 4 jours à l'Aquarius, dans des conditions de navigation qui auraient pu mettre en péril la sécurité de ces personnes extrêmement vulnérables. Donc non, ce n'est pas une solution pour SOS Méditerranée, mais surtout, ce n'est pas une solution pour l'Europe. Le sauvetage en mer est un devoir légal qui incombe au gouvernement. Il incombe donc au gouvernement européen de trouver d'urgence une solution pour garantir un port de débarquement sûr et proche pour tous les navires qui secourent des personnes en mer aujourd'hui, que ce soit les navires des gardes-côtes italiens, les navires militaires, des navires marchands, des navires d'ONG, des navires de Frontex, car les départs continuent depuis la Libye et de nouvelles catastrophes annoncées se profilent en mer. Et l'Europe porte tous les morts en mer Méditerranée sur la conscience.
Alors, comment jugez-vous les réponses très contradictoires, on l'a vu, des États européens à cette nouvelle crise ?
Les États européens doivent d'urgence mettre en place un modèle européen de sauvetage en mer qui soit fondé sur les valeurs fondamentales de l'Europe, respect des droits humains, dignité, solidarité. Ces derniers jours ont démontré justement un contraste énorme entre la société civile en Europe et les gouvernements. SOS Méditerranée salue d'ailleurs la vague de soutien reçue de la part des citoyens espagnols et européens qui se sont immédiatement mobilisés en masse pour soutenir l'Aquarius. Un soutien qui aujourd'hui ne fléchit pas et qui montre encore une fois que les citoyens sont plus concernés que leurs dirigeants et plus conscients de l'urgence de trouver une solution à ce drame qui dure depuis bien trop longtemps aux portes de l'Europe.
Merci Mathilde Ovinin, vous êtes l'une des porte-parole de SOS Méditerranée. Et j'ajoute que l'Aquarius devait repartir en mer ce mercredi pour poursuivre sa mission de sauvetage des migrants. Alors on l'évoquait à l'instant, des citoyens mais aussi des élus européens se sont mobilisés en faveur des réfugiés. Ainsi le maire de Palerme au sud de l'Italie a déclaré que la Sicile resterait une terre d'accueil. À Palerme où des citoyens lancent l'initiative Barca Nostra. Le reportage de Cécile Debarge commence dans le quartier populaire de Ballaro.
Veste orange fluo, tout sourire, Kamal El Karkouri tente de recueillir des signatures pour sa pétition Barca Nostra, littéralement « notre bateau », en référence au plus grand naufrage du siècle en Méditerranée, celui du 18 avril 2015. Plus de 800 migrants avaient alors sombré au large des côtes libyennes. Derrière Kamal, une affiche aussi haute que lui étire les couleurs bleues et rouilles de l'épave de ce bateau tristement célèbre et dont le projet Barca Nostra aimerait faire un symbole.
Je ne cherche pas seulement à obtenir des signatures, je veux aussi en profiter pour parler avec les gens dans la rue, parler avec des personnes que je ne connais pas et leur expliquer ce que c'est qu'un immigré.
Le projet consiste à récupérer l'épave du bateau qui se trouve encore sur la base militaire de Melilli, en Sicile, le ramener à Palerme où vivent les militants à l'origine du projet et puis le ramener jusque Bruxelles après une longue procession à travers l'Europe. Nina Magnus-Dottir, l'une des initiatrices du projet.
Nous voulons que les gens puissent participer à cette marche en signe de solidarité et amener ce bateau jusqu'au cœur de l'Europe, en signe des ratés de la politique migratoire européenne.
Cette Islandaise vit à Palerme et travaille depuis plusieurs mois avec le petit groupe de Barca Nostra pour réfléchir à une manière forte de mobiliser l'opinion publique sur la liberté de mouvement au sein de l'Union européenne.
Ça ne doit pas être une démarche de victimisation, mais plutôt une marche de solidarité, une célébration qui puisse nous amener à être être tous ensemble. Originaire de Vérone, palermitain d'adoption, Zeno Franchini est lui aussi descendu dans les rues depuis 5 jours afin de faire signer la pétition.
Notre objectif, c'est de recueillir le plus de signatures possible, même dans toute l'Europe. La pétition peut se signer aussi sur notre site internet barcanostra.eu. Et on aimerait qu'il n'y ait pas de limite et qu'on ne se dise pas « Ok, on a autant de signatures, alors on est content ». Non, on aimerait que ça se répande, que chacun le fasse chez lui pour créer une action qui puisse donner corps à ces mots, qui puisse générer une réaction autour de ce sujet.
L'un des moteurs du projet est que l'initiative soit portée par les migrants eux-mêmes, explique Kamal El Karkouri.
L'immigré ne doit pas voir Barcanostra comme un projet fait par les autres et au cours duquel on lui demande juste d'intervenir pour rendre service. On veut le présenter comme un projet qui nous appartient.
Originaire du Maroc, lui-même vit à Palerme depuis 13 ans.
Ici, nous les migrants, on est juste considérés comme des pauvres qui ont besoin d'aide, qui ne savent parfois ni lire ni écrire. Alors que là, ce projet, c'est un bon début pour montrer que nous sommes des êtres humains, que nous savons gérer nos propres affaires et prendre nos responsabilités avec le reste de la population.
Dans les semaines à venir, le petit groupe présentera le projet auprès des différentes communautés étrangères de Palerme. Les militants en sont conscients, l'objectif final est difficile à atteindre. Récupérer l'épave de ce bateau pour la transporter coûte cher, nécessite une logistique complexe et surtout la volonté politique de laisser cet événement voir le jour. Peu importe, ce projet est d'ores et déjà devenu le meilleur moyen de sensibiliser les Italiens, explique Kamal.
En plus du reste, nous devons être convaincus qu'il faut absolument parler avec les gens, surtout ceux qui nous disent « Moi je suis raciste, je ne te veux pas dans mon pays ». Mais au moins, ils nous écoutent et on peut parler. Et c'est à eux qu'il faut s'adresser car souvent, ils sont victimes de désinformation.
Dans le contexte politique actuel, nombreuses sont les voix de la société civile à se demander comment lutter contre les messages xénophobes du nouveau gouvernement. Zeno Franchini.
Désormais, on passe tous beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à commenter les actualités. Et on finit par se dire que le seul moyen de communiquer, c'est de confronter nos idées de manière brutale, ou bien de se moquer des autres. Alors qu'au final, quand tu te retrouves face à quelqu'un, dans la vraie vie, tu ne parles pas et tu ne réagis pas de la même manière.
Pour Kamal El Karkouri, c'est trop simple de rejeter la faute sur les sympathisants du ministre de l'Intérieur.
J'ai alerté mes compagnons en leur disant que si le racisme et la haine continuent d'augmenter, ce n'est pas la faute de Salvini, mais aussi la nôtre, car on ne parle pas avec les gens.
Quel que soit le destin du bateau, le petit groupe de Barcanostra en est convaincu. L'essentiel est de provoquer la discussion plus encore en cette période politique complexe. Le projet a recueilli près de 1000 signatures en quelques jours et espère pouvoir faire entendre sa voix auprès de la mairie de Palerme et des institutions dès la rentrée prochaine.
يجب أن تسامح الناس أن تنفض جراحا بنات أعشاشها المرة على قلبك لتستطيع أن تبتسم للصباح وتطعم العصافير الجديدة.
En février 2015, elle était passée sous contrôle du groupe État islamique et réduite au silence. Depuis quelques semaines, la radio locale de Sirte, à 500 km à l'est de Tripoli, émet de nouveau librement, et ce grâce à un soutien européen. Le projet a été financé en partie par le Comité européen des régions, institution basée à Bruxelles. C'est un reportage de Johanna Hochstein.
Chers auditeurs, vous qui suivez nos programmes sur la fréquence 101.1 Radio Amouadj Achababi, que Dieu égaye votre cœur et vous donne le sourire en cette belle matinée.
Ce que vous entendez, c'est la radio locale de Sirte, Amouadj FM, qui émet à nouveau depuis quelques semaines. Un miracle, selon Fatih Souleyman, qui a participé à la reconstruction de la station. La radio a été complètement détruite, le matériel pillé par le groupe État islamique qui a assiégé la ville de Sirte. Le plus dur, selon Fatih Souleyman, a été d'acheminer le nouveau matériel radiophonique à bon port.
La ville de Sirte ressemble à un champ de bataille. L'instabilité règne encore dans certaines régions, dans les vallées, dans le désert. Donc c'est compliqué de transporter du matériel radiophonique de Nice, en France, jusqu'à Tripoli, puis Misrata, puis Sirte. Le point le plus sensible, c'était entre Misrata et Sirte. On était nerveux et on croisait les doigts pour que le matériel arrive bien à sa destination finale.
Cette radio va diffuser 24 heures sur 24, principalement des programmes destinés à la jeunesse libyenne, pour l'aider à trouver du travail, à apprendre l'anglais. Il faut aussi lui redonner espoir et contrer le discours du groupe État islamique, comme l'explique Fatih Souleyman.
ISIS.
Le groupe État islamique a diffusé son idéologie pendant 2 ans par le biais de la radio et des réseaux sociaux. Ils ont fait de leur mieux pour laver le cerveau des plus jeunes. Donc maintenant, quelle est la meilleure manière pour contrer cette idéologie empoisonnée? Eh bien, c'est de donner la parole aux plus jeunes, voir quelles difficultés ils rencontrent dans leur quotidien, diffuser des programmes pour la jeunesse. Bref, occuper leur journée.
C'est le Comité européen des régions, une institution basée à Bruxelles, qui a financé en partie la reconstruction de la radio. Karl Heinz Lamberts, son président.
La station de radio, c'est l'alimentation du cerveau, c'est la liberté, c'est l'expression, c'est la possibilité de communiquer, de sortir de l'isolement. Et là, la radio est toujours un instrument très important. Rendre possible la genèse de stations de radio qui sont vraiment aussi maîtrisées par ceux qui les gèrent et pas quelque part des instruments d'indoctrination de par qui que ce soit. Et c'est très important.
En fait, le Comité européen des régions a lancé l'initiative Nicosie en 2015 pour aider à la stabilisation de la Libye, dévastée par 6 années de guerre civile. La Libye étant plus que jamais un pays stratégique pour les Européens, tant du point de vue migratoire que sécuritaire. La philosophie de cette initiative est de partir des besoins des villes libyennes pour ensuite les mettre en contact avec des municipalités ou des régions européennes qui ont développé une expertise dans les domaines de la gestion de l'eau, des services de santé par exemple. Passer par les autorités locales libyennes, c'est aussi une manière de dépasser le blocage politique dans le pays, comme l'explique Benedetta Odo, responsable de l'initiative de Nicosie en Libye.
Les autorités locales en Libye, en fait, ont dû jouer un rôle politique qui n'était pas assigné par la loi. Parce que finalement, avec deux gouvernements, deux parlements et tout un status quo au niveau national, c'est eux qui se sont trouvés à faire face aux besoins des gens. Les maires, c'était comme les pères des familles. Les gens s'adressaient à eux pour tout besoin. Donc, la stabilisation de la Libye vient par le niveau local. C'est pas qu'en appuyant le niveau local, nous, on aide la désintégration du pays. C'est le contraire.
Pour fêter le lancement de la radio, Ali, un jeune journaliste libyen, devait venir à Bruxelles pour interviewer le président du Comité des régions. Mais en dernière minute, il n'a pas pu obtenir son visa pour l'Europe. C'est donc par téléphone que nous le contactons. Il revient sur les difficultés rencontrées au quotidien.
Après avoir reçu le soutien matériel, nous avons eu des difficultés avec les autorités locales. La mairie voulait avoir le contrôle sur la radio, et puis il y a aussi des problèmes avec les salafistes. Les intégristes qui sont encore dans la ville sont contre la radio, la musique c'est péché. Nous avons peur qu'ils attaquent la radio, mais pour le moment, on gère la situation. Il y a un conflit maintenant parce qu'on est en pleine période électorale. Or, ceux qui ont accès à la radio ont le pouvoir de toucher la population.
Mais au-delà de ces défis, Ali veut croire que le plus dur est derrière lui pour la radio et pour la Libye.
Et ce mercredi, suite de notre série de reportages dans les lycées français, après la mise en ligne de notre webdoc sur les clichés eurosceptiques. Cette semaine, Ève Minot s'est rendue avec Emma Roulin à Évreux, dans le nord-ouest de la France, pour parler de la Roumanie et des travailleurs détachés.
Vendredi 16h, c'est la fin de la semaine dans cette classe de seconde du lycée Sangor à Évreux, et les élèves sont presque calmes en attendant la libération du week-end. Avant de parler travailleurs détachés et directives européennes, une première question s'impose. C'est quoi, au fait, le principe de la libre circulation des travailleurs ?
Par exemple, un homme d'affaires qui a le droit de passer de pays en pays dans l'Union européenne.
Dans la plupart des pays de l'Union européenne, on peut forcément s'y rendre avec l'espace Schengen.
Schengen or not Schengen, tous célèbrent le fait de pouvoir travailler dans un autre pays de l'Union, et la plupart d'ailleurs s'y verraient bien, si cela leur permettait de mieux gagner leur vie.
On peut trouver aussi des inconvénients à cette libre circulation des travailleurs. Alors, quel est le problème de ce système, à votre avis ?
Moi, je dirais les gens qui embauchent des gens de pays autres, mais moins chers que dans leur pays.
Et si eux-mêmes étaient au chômage, se sentiraient-ils menacés par la main-d'œuvre étrangère ?
Ceux qui sont au chômage, je pense qu'ils voudraient quand même récupérer un travail. Et le fait que on l'offre aux étrangers, moi, je pense normal qu'ils ont ce sentiment-là.
Il faudrait quand même mettre des règles en place. Genre limiter les embauches dans d'autres pays.
Après les premières prises de position des uns et des autres, il est grand temps pour tous de se confronter à la réalité de la vie de Christian, travailleur détaché roumain qui fait des allers-retours entre son pays et la France pour nourrir sa famille. et qui a découvert que son employeur lui prélevait quasiment la moitié de son salaire pour régulariser d'obscurs frais de gestion.
Il est complètement surexploité en fait en France. Ça prouve bien que les travailleurs détachés, ils n'ont pas une réglementation assez bonne en Europe.
Donc qu'est-ce qu'il faut changer en termes de réglementation ?
Peut-être vérifier les salaires que fournissent les entreprises aux travailleurs détachés.
Moi je trouve ça injuste quand même qu'ils retirent beaucoup d'argent aux Roumains, alors que pour les Italiens, ils ne retirent pas d'argent. Ça prouve qu'il y a quand même une grande distinction entre par exemple Italie-Roumanie.
Et à ton avis, c'est dû à quoi ?
Au développement du pays.
Très rapidement, les discussions glissent vers le Brexit. Et ses partisans, qui ont fait de la libre circulation des travailleurs en Europe, un bouc émissaire.
Moi, je pense que c'est rapport au fait que les Britanniques ont commencé à se dire qu'on leur volait leur travail. Du coup, forcément, l'Union Européenne, ils trouvaient qu'ils y gagnaient pas.
Donc, est-ce que toi, en tant que Français, tu aurais pu aussi voter pour la sortie de la France de l'Union Européenne ?
Ouais, clairement.
Je pense pas qu'il soit nécessaire de sortir de l'Union Européenne pour ça. Je pense qu'il faut juste revoir les lois.
Qu'est-ce que tu ferais si tu avais le pouvoir de changer les lois ?
Si on invite les gens à venir travailler en France, autant les mettre sur le même pied, les payer de la même façon. Mais pas pour autant faire, entre guillemets, piquer le boulot de aux Français. C'est compliqué, mais je pense que c'est possible.
On aura beau rajouter des lois, mais il y en aura toujours qui trouveront le moyen de frauder, en fait.
Qui fraude, là, à ton avis ?
Les employeurs, les grosses sociétés, tout ça.
Le chômage, c'est un gros problème en France. Ce serait bien de prendre les Français, parce qu'on ne peut pas, nous, se permettre de prendre toute la misère du monde, en fait. Donc, faut faire, en fait, des compromis.
Entre course au profit des entreprises et absence de contrôle de l'Union européenne, les élèves cherchent tous le coupable. Et du fond de la classe, Camille tente une solution.
Ma proposition, du coup, ça serait de changer les lois, puisque si on parle de citoyenneté européenne, autant faire des lois qui diminueraient le dumping social. C'est-à-dire, on ne viendrait pas travailler en France, on continuerait de travailler dans l'Europe.
Pour ça, il faudrait quoi, par exemple ?
Il faudrait déjà aider un peu plus les pays démunis pour avoir un équilibre.
Par exemple, un salaire minimum européen.
Oui, ça, voilà, si on se permet de rêver, voilà.
Même si l'on est encore loin du salaire minimum européen, sans le savoir, Camille a visé juste. Au même moment à Bruxelles, le Parlement a approuvé la révision de la directive afin d'uniformiser les conditions de travail. Le nouveau texte entrera en vigueur courant 2020, quand toute la classe sera en âge de travailler.
Reportage d'Ève Minot, les clichés eurosceptiques, un webdoc à retrouver sur l'europe-et-moi-2.rfi.fr.
Je suis un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une grand-mère solide comme un roc, c'est à l'envers, c'est une triste époque.
Les Néerlandais crient au loup et ils ont bien raison. Car après plusieurs siècles d'absence, à la surprise générale, les loups semblent désormais bel et bien de retour aux Pays-Bas. Depuis quelque temps, les photos et vidéos d'individus solitaires aperçus dans l'est du royaume font énormément parler d'elles, Antoine Moutot.
Un beau loup, le pelage luisant, aux reflets bleus et gris, qui avance avec prudence dans un bois de la province de Drenthe. C'est ce que montre une vidéo prise grâce à une caméra placée là par le Staatsbosbeheer, l'organisation des gardes champêtres néerlandais. Les autorités pensent qu'il s'agit du même loup repéré à maintes reprises dans la même zone depuis maintenant déjà plusieurs mois, le signe, selon certains spécialistes, d'une installation à long terme de l'animal dans la région. Cela fait déjà plusieurs années que des loups sont aperçus dans le pays, surtout dans l'Est. Ils se reproduisent en fait dans la région voisine de Basse-Saxe en Allemagne et traversent régulièrement la frontière. Mais jusque-là, il n'était pas encore question d'un établissement permanent aux Pays-Bas. Seulement, voilà, même si après plus d'un siècle d'absence, le retour des loups fascine une grande partie des Néerlandais, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains bergers se plaignent, ils craignent pour leur bétail. Il y a un an, des prélèvements ADN effectués sur deux moutons retrouvés morts dans la province de Groningue ont permis d'établir qu'ils ont été tués par un loup. Et pourtant, une étude publiée récemment tend à prouver l'utilité du loup aux Pays-Bas. Des scientifiques de l'université de Groningue et leurs collègues de l'Académie polonaise des sciences ont mené des recherches en Pologne. Ils sont arrivés à la conclusion que le loup fait peur aux autres animaux comme les cerfs et les chevreuils. Ces derniers se cachent donc davantage, passent moins de temps à fourrager et épargnent enfin des petits arbres qui peuvent se développer plus facilement. Et tout ça favorise une meilleure biodiversité.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 en universel.